Humer, sentez, respirez, reniflez, cela embaume, exhale, empeste, fleurs, arômes et aromates, effluves et flagrances, bouquets et senteurs, mille mots pour un sens, une vie de nez.
Pascal Paradou.
Il y a le nez de Cléopâtre, celui de Cyrano et plus récemment celui de Jean-Claude Héléna, puisque c'est ainsi que l'on désigne souvent les parfumeurs. Et après 14 ans au sein de la maison Hermès, il va de soi que l'on est un sacré nez. Bonjour Jean-Claude Héléna.
Bonjour.
Aujourd'hui, j'ai mis un parfum. Vous sentez ?
Vous êtes trop loin.
Pourtant, j'ai mis la dose. C'est un de vos parfums. Je voulais vous faire un clin d'œil.
Ah,
Terre d'Hermès, qui est devenu
un classique.
Ouais. Comment on nomme, par exemple, ce parfum-là ? Comment, à quel mot on nomme un parfum comme Terre d'Hermès, pour prendre celui-là, mais vous pouvez en prendre un autre plus récent ?
C'est une jolie question que vous me posez, parce que pour moi, c'est assez... C'est pas si évident que ça, parce qu'à la fois ça s'appelle Terre d'Hermès parce que c'est son nom, et à la fois, si je devais le classer dans une famille olfactive, je dirais que c'est un boisé épicé. Mais un boisé épicé, c'est tellement restrictif que ça ne dit rien. Et c'est un peu comme un titre d'un roman, c'est-à-dire que le titre d'un roman vous dit quelque chose, c'est une espèce de clé pour entrer dans le roman, et puis il faut lire le roman pour savoir ce qu'il raconte. Et là, et pour le parfum, c'est pour moi la même chose, c'est-à-dire qu'il faut porter le parfum pour le vivre. Et le parfum vous raconte quelque chose sur votre peau.
Créer un parfum, c'est aussi long qu'écrire un roman ?
Ah oui. Oui, c'est long parce qu'il y a des choses que moi j'ai créées rapidement. 3 jours, c'était écrit. Puis après, il faut retravailler. Puis il y a des choses que j'ai écrites. Il m'a fallu 10 années pour l'écrire, pour mettre à jour ce que je voulais faire.
Alors, mais vous dites écrire un parfum ?
Oui, je dis écrire un parfum. Et je me dis écrivain d'odeur, hein, comme parfumeur. Donc... Oui, c'est écrire un parfum, donc ça prend du temps. Des fois, ça va très vite parce que l'idée est tellement claire dans votre tête que vous écrivez votre formule et les choses s'arrangent toutes seules. Et puis des fois, les choses, vous commencez et non, c'est pas ça que je désire, c'est pas ça que je veux aller. Donc on revient, on met de côté, on attend, on reprend et des années se passent. Et puis il y a des choses qui ne sorteront jamais parce que pas abouti, parce qu'insatisfait, parce que... Oui, parce que je ne suis pas satisfait. Si je ne suis pas satisfait, pas question de vous l'offrir.
Alors, vous êtes un écrivain de parfum. On dit quand même souvent un nez.
Oui.
Vous êtes aussi un écrivain tout court, puisque votre nouvel ouvrage « Petit lexique des amateurs » est pris d'odeur et de parfum, et votre dernière création. Mais alors, dans ce livre, vous dites que justement, écrire un parfum, ce n'est pas une question de nez, donc cette expression est galvaudée, que c'est une question d'imagination.
Ah oui, c'est surtout une question d'imagination, parce qu'à la fois, il y a le problème de la mémoire, parce que je travaille à la fois avec la mémoire, mais la mémoire ne fait rien si vous n'avez pas d'imagination, c'est-à-dire de mettre des choses ensemble qui n'ont jamais été faites auparavant. Donc, il faut avoir une idée dans la tête vers quoi je veux tendre, qu'est-ce que je veux faire. Tout à l'heure, vous parliez de Terre d'Hermès, je reviens sur Terre d'Hermès. Au départ, quand j'ai présenté cette idée à la direction, c'était « je vous ai apporté un parfum vertical ». Quand vous dites vertical, les gens vous regardent avec des grands yeux en disant « Mais Héléna, tu racontes n'importe quoi.
C'est quoi vertical ?»
Pourquoi vertical ? Et donc, j'ai expliqué tout simplement une image, c'est-à-dire « Écoutez, je suis aquarelliste. Je me souviens, en Irlande, je faisais des aquarelles parce que magnifique pays pour les aquarelles. Et puis, il y avait la lande. La lande toute seule, c'est la nature. Un piqué dans la lande, un seul piqué, l'homme est présent. Et je suis parti de cette idée du piqué enfoncé dans la terre. » Pour dire, voilà ce que je veux faire en parfum.
Alors, vous parlez de peinture, Jean-Claude Héléna, vous parlez d'écriture, mais pourtant, et dans votre livre, on le voit, il y a des mots qui font appel à la poésie, mais il y a aussi beaucoup de mots très scientifiques, et c'est quand même aussi une affaire chimique, la création de parfums.
Pas plus que la couleur, puisque la couleur, c'est aussi chimique. Alors, chimique, En fait, non, parce que là, il s'agit d'odeur. Je vais faire juste un détour du côté de la cuisine. Un cuisinier, c'est un chimiste.
Ça y est, maintenant on parle.
Mais oui,
on parle de tout avec vous.
Ben oui, parce que c'est pour essayer de faire comprendre ce que c'est que le parfum. Parce que quand vous faites de la cuisine, vous faites de la physique et de la chimie. La physique parce que vous chauffez et de la chimie parce qu'il y a des réactions. Mais le cuisinier, un 3 étoilés, j'en connais pas mal, avec qui je suis ami, ben, il ne vous parle pas de chimie et de physique, il parle de goût. Et le goût, c'est d'abord de l'odeur. Et là, avec les parfums, c'est la même chose. C'est-à-dire que j'ai en mémoire des odeurs et par la mémoire, je peux les associer, je peux les composer, c'est-à-dire faire des mélanges dans la tête en disant « oui, ça, c'est peut-être intéressant ». Et ensuite, j'écris ce que je vais faire. Et je vais peser, je vais contrôler ce que j'ai fait. Donc, le nez, c'est un outil de contrôle, uniquement un outil de contrôle.
Alors, puisque vous m'emmenez toujours ailleurs, je vous parlais de parfumerie, vous me parlez d'écriture ou de cuisine, est-ce qu'on pourrait parler de voyage? Parce que le parfum, c'est aussi
un
voyage.
Oui, c'est une invitation au voyage. C'est une invitation au voyage.
Donc, alors, il faut de l'étrangeté et de l'étranger, finalement, pour créer un parfum.
Oui,
pour écrire un parfum.
Oui. Alors, quand vous parlez de voyage, forcément, beaucoup de composants qui rentrent dans les parfums viennent de terres lointaines ou viennent de pays lointains, plutôt des pays chauds, parce que dans les pays froids, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de plantes qui ont des odeurs. Donc, c'est à la fois le voyage. Et puis, par les voyages, on a ramené de loin des épices, des fleurs. Mais si je regarde, ce qui est étrange et ce que les gens ne savent pas, c'est que les matériaux qu'on utilise aujourd'hui dans les parfums datent d'une centaine d'années. On en avait très peu auparavant. Et à part les voyages, on a découvert des nouvelles matières. On a trouvé l'ylang, on a trouvé le patchouli, on a trouvé le santal. Le santal, dans les parfums, ça a une centaine d'années, pas plus.
Alors celui, et c'est ça que j'ai trouvé passionnant dans votre livre, celui qui trouve les parfums, qui trouve les plantes, ce n'est pas le parfumeur.
Non.
Il y a un très beau mot, c'est celui de sourceur.
Oui, c'est un mot de sourceur, oui, c'est le sourceur. Alors le sourceur, lui, son travail, et c'est un merveilleux travail, c'est de parcourir le monde à la recherche de plantes qui pourraient intéresser les parfumeurs. Alors il trouve des plantes, il va les distiller, il va faire des essais, et puis il a quelque chose qu'il croit intéressant, et puis il vient voir des parfumeurs, et bien, qu'est-ce que vous pensez de ce que je vous apporte là? La plupart du temps, 90% du temps, c'est non. C'est terrible, hein, c'est vraiment terrible. On est des brutes.
Oui. Oui.
Alors pourquoi non? Parce que beaucoup de choses, il y a des choses qui nous ramènent, qui ressemblent à des choses existantes. Alors, si ça existe déjà, aucun intérêt. Si ça existe déjà, mais c'est moins coûteux, ah, là, ça devient intéressant. Parce que quand même, il y a quand même l'économie qui rentre en jeu. Et si c'est vraiment la même chose et que c'est moins coûteux, on va se pencher sur le produit. Alors, et de temps en temps, il y a des découvertes. Comme récemment, là, c'était par un ami cuisinier qui m'avait montré du poivre Timut. Le poivre Timut venait juste d'intéresser les cuisiniers. Et je sens le poivre Timut, ça a une odeur de pamplemousse, de fruit de la passion. C'est pétillant. Ah oui, là, il y a quelque chose d'intéressant. Alors, on va distiller, on va regarder. Et entre le moment où il y a un intérêt et le moment où le produit sort, 3 années de travail. C'est long à mettre au point une matière pour la parfumerie. C'est très, très long.
Des parfums d'Arabie, d'Afrique et d'ailleurs, nous allons aujourd'hui suivre l'imagination vagabonde de Jean-Claude Helena après avoir écouté la voix douce de Loni comme la fin du monde.
Tu vois derrière la lune, le sable rouille, on voit du rouge qui coule sur l'écume. Si c'est moi qui l'invente.
Loni, un nouveau nom de la scène pop sur RFI avec un nouvel album baptisé Ex Voto et ce titre comme La fin du monde. Jean-Claude Elena est aujourd'hui notre invité avec cet abécédaire des mots de la parfumerie que vous définissez ainsi. L'art du parfum, c'est 10 000 molécules et tout est possible. J'ai envie de rajouter que être né à Grasse, dans le sud de la France, vous y vivez d'ailleurs toujours, doit quand même un peu aider puisque Grasse est la ville par essence, sans jeu de mots, de la parfumerie depuis le XVIIe siècle, me dites-vous.
Ben oui, enfin, forcément, le milieu vous influence, le milieu vous marque. D'autant que moi, quand j'ai commencé, j'ai commencé dans l'usine. J'avais 17 ans, j'ai commencé dans une usine de parfumerie. Et la première chose que j'ai fait, c'est apprendre à distiller et à manier ces appareils d'extraction que sont les alambics. Et vous êtes physiquement là, vous êtes physiquement, et pas intellectuellement là, vous êtes physiquement dans l'odeur et ça vous colle à la peau après.
Vous vous souvenez d'une première odeur ?
Alors il y a les premières odeurs d'enfance et puis après il y a les premières odeurs, il y a aussi les odeurs d'usine. Et les odeurs d'usine, c'était surtout la mousse de chêne. Parce que à l'époque, je travaillais dans les 3-8 et comme j'étais jeune, on me faisait faire la nuit. Donc, une fois que les alambics étaient chargés, on allait se reposer sur des balles de mousse de chêne. Et puis, on dormait un moment. Puis, on se réveillait pour charger à nouveau les appareils. Et donc, là, j'ai vraiment imprégné de cette mousse de chêne. En plus, la mousse de chêne avait une odeur que moi, je trouvais merveilleuse parce que ça sent la chevelure d'une femme. Je suis même allé assez loin sur le mot en disant, ben oui, mais ça sent la toison d'un pubis de femme. Et c'est cette chose absolument étrange, érotique, comme ça. J'ai gardé ça dans ma tête et c'est vraiment une odeur de prédilection.
Et vous vous en êtes beaucoup servi, vous l'avez beaucoup utilisé.
Je m'en suis beaucoup servi, oui,
cette essence. Alors, vous rappelez ces souvenirs, vous dites dans votre livre que le parfum a été inventé à Grasse au XVIIe siècle. Et en même temps, vous venez de nous dire tout à l'heure que les odeurs avaient 100 ans. Pas plus. Alors, qu'est-ce qui se passe là entre les deux? Je suis un peu perdu.
Alors, c'est-à-dire que la multiplicité des odeurs d'aujourd'hui vient surtout avec les voyages. Alors, auparavant, il y avait des matières premières dans la parfumerie, mais elles étaient assez. Il y en avait une cinquantaine. Aujourd'hui, on a doublé quand même les produits naturels. Puis est arrivée la chimie aussi. La chimie, c'est ça qui a été leur grand rebond de la parfumerie. C'est la chimie qui arrive à la fin du 19e siècle. Et d'un seul coup, les parfumeurs se saisissent de la chimie pour faire de la parfumerie.
Donc, en 100 ans, le monde a complètement changé d'odeur.
Totalement changé d'odeur. Mais vraiment totalement changé d'odeur. Et il en est de même pour les couleurs. J'aime bien citer cet exemple au niveau des couleurs parce que ça fait prendre conscience. Et que, par exemple, pour les pastels, dans les années 1850, il y avait une trentaine de couleurs dans les pastels. Avec la chimie des couleurs va faire passer à 300 couleurs les pastels. Et d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? On regarde les pastels, mais il y a Degas, Lautrec, qui font des merveilleux pastels. Mais oui, mais c'est la chimie des couleurs qui permet de faire ça. Parce que d'un seul coup, on a une diversité des couleurs, une diversité des bleus, des rouges, des jaunes, qu'on n'avait pas auparavant. Et les artistes qui sont à l'époque ont bien compris ce qu'ils pouvaient tirer parti. Et les parfumeurs font la même chose. D'un seul coup, il y a la chimie des odeurs qui... Ah oui, mais ça, je n'ai jamais eu avant. Et avec ça, je peux travailler. Donc c'est... Oui, voilà, d'un seul coup, la palette olfactive, comme la palette colorée, augmente.
Et dans ce monde qui sent de plus en plus, est arrivée une maladie il y a 2 ans qui s'appelle le Covid, oui, avec pour symptôme la perte de l'odorat. C'est terrible pour vous, ça?
Alors, c'est terrible. Oui, c'est terrible pour le parfumeur, puisque s'il a une perte de l'odorat, il a une perte du contrôle.
Votre nez est assuré?
Mon nez n'est pas assuré.
Comme les mains des pianistes?
Non, non, le nez n'est pas assuré. Je pourrais l'assurer, mais non. Le nez n'est pas assuré. La seule chose que je fais, c'est... Je fais comme tout le monde. Je me protège et je me vaccine. Et plus qu'il n'en faut, s'il le faut. Mais oui, mais il faut protéger le nez. Alors, il y a une chose importante qu'il faut savoir, c'est que les récepteurs olfactifs se régénèrent tous les 40 jours. Tous les 40 jours, vos récepteurs sont neufs. Merveilleuse chose, qui fait que c'est le seul sens chez l'humain qui se régénère totalement. Pas les yeux, pas les oreilles, malheureusement, mais le nez, oui. Alors, si vous perdez l'odorat, ce n'est pas définitif. C'est-à-dire que tous les 40 jours, normalement, il se régénère. Et si vous avez perdu l'odorat, ensuite, avec un peu d'entraînement, il reviendra. Mais il faut savoir que les cellules reviennent neuves. Et ça, c'est quand même extraordinaire.
Donc, vous vous entraînez à conserver votre nez de jeune homme.
Absolument.
Alors, on parlait beaucoup de comment nommer les parfums. Je ne vais pas créer un débat en différé. Mais écoutez ce que dit Alain Corbin, qui est un historien des sensibilités et des mentalités.
Il n'y a pas de vocabulaire olfactif, il n'y a pas de système d'analyse ni d'écriture olfactive qui permettent de reconstituer à coup sûr une odeur une fois qu'on l'a décrite. Il n'y a pas de vocabulaire parce que le vocabulaire qui permet de décrire les odeurs est en fait un vocabulaire emprunté aux autres sens. On parle d'une odeur de tel objet ou donc qui se réfère à la présence visuelle de cet objet. Une odeur assourdissante, par métaphore, avec des sensations auditives, ou encore une odeur verte qui évoque la prairie, ou au contraire ce qui est jeune. Mais dans tous ces cas-là, le vocabulaire n'est pas proprement olfactif.
Jean-Claude Hélénin, alors il n'y aurait pas de mots pour dire les odeurs?
S'il n'y avait pas de moi, je ne serais pas parfumeur.
Bon, donc vous n'êtes pas d'accord avec Alain Corbin, mais il n'est pas là pour répondre. Et de toute façon, oui, votre livre démontre le contraire. En partie, puisque c'est donc un petit lexique et il y a des mots très simples, mais il y a aussi des mots assez rares. Alors, je ne sais pas si c'est pour le goût du mot rare que vous le faites figurer, que vous les faites figurer dans ce livre, ou si ce sont des mots très usuels pour un parfumeur. Par exemple, la pélatrice.
Alors, la pélatrice, d'abord, ce n'est pas un mot qui décrit une odeur, c'est une technique utilisée pour extraire l'extrait de bergamote. Donc, c'est un système qui gratte la peau de bergamote, qui permet de récupérer l'essence. Mais voilà, c'est un mot simplement technique, mais qui n'a rien à voir avec l'odeur. Alors, juste par rapport à ce que dit Corbin, c'est que dans tous les domaines artistiques, le problème se pose. C'est-à-dire que, par exemple, si je veux parler d'une peinture... Si je ne parle que de couleurs, je n'exprime pas la peinture. Et au niveau musical, j'ai les mêmes problèmes. Donc, dans tous les arts, la difficulté, c'est dans comment en parler. Et on fait tous des métaphores, y compris dans la musique, y compris dans la peinture, pour exprimer ce que l'on voit. Et alors, ça ne dit pas exactement la chose, mais on essaye
de... On s'en approche.
On s'en approche. Donc, le parfum a la même difficulté. D'autre part, si vous mettez deux parfumeurs face à face... qui ont l'habitude d'utiliser un vocabulaire. Ce vocabulaire s'est construit sur la matière, c'est-à-dire en travaillant. Eh bien, vous apercevez qu'ils peuvent se comprendre. Et si je dis « donne-moi du montant, donne-moi du rêche, donne-moi du sec, donne-moi du doux » dans un parfum, tout de suite chez lui, il va pouvoir transformer ce mot en action et donner de la douceur, du rêche, du sec, du montant, etc. etc. Donc, il sait ce que ça veut dire. Il sait derrière ce mot ce qu'il peut faire. Et on se comprend. Alors, évidemment, pour quelqu'un de l'extérieur, ils se disent « mais de quoi il parle ?» Mais c'est le problème des spécialistes. Et on rentre dans un domaine qui fait que c'est le problème des œnologues qui vous parlent de vin. Et puis, d'un seul coup, vous découvrez le goût du vin d'une autre manière, et tant mieux.
Et l'on découvre des nouveaux mots qui ont une puissance poétique assez grande. Oui. Opopanax, par exemple.
Oui.
21 points au Scrabble.
Merveilleux.
C'est quoi l'opopanax?
L'opopanax, alors, c'est une résine qui se rapproche énormément de l'odeur de l'encens. pas très loin de l'odeur de l'encens, avec un côté un peu agrume, orangé, et aujourd'hui rarement utilisé. Mais oui, voilà, c'est un arbre qui donne une résine qui sert à la parfumerie.
Le Caro Carundé.
C'est un joli mot, le Carundé.
Ah, c'est beau. Là, ça nous emmène vers l'Afrique.
Alors, Caro Carundé, c'est aussi un arbre avec des fleurs. Et ces fleurs, on tire un extrait de ces fleurs qui est entre le jasmin et la tubéreuse. Très doux, très voluptueux, très sensuel, très charnel comme odeur. Et qui est aujourd'hui encore rarement utilisé dans les parfums.
Est-ce que toutes les fleurs ont une odeur? Parce que j'ai découvert, toujours vous lisant, qu'il y a des fleurs muettes.
Alors, toutes les fleurs n'ont pas d'odeur. Il y a des fleurs dites muettes. Alors, quand on parle de fleurs muettes en parfumerie, ça veut dire qu'on ne peut pas extraire leur parfum. Comme on ne peut pas extraire l'odeur du lilas, on ne peut pas extraire l'odeur du muguet ou l'odeur de la pivoine. Les raisons sont diverses. Souvent, c'est une question de pourcentage obtenu, c'est-à-dire que si j'extrais une odeur de muguet, l'extrait est tellement... La faiblesse du pourcentage est telle que le prix de l'odeur serait immense. C'est-à-dire qu'on dépasserait quelques milliers d'euros et inutilisable en parfumerie. Il faut quand même savoir que les produits les plus chers qu'on utilise en parfumerie font 20 000 euros le kilo.
Ce qui est une somme déjà.
C'est une somme déjà. Et si j'en mets un gramme, vous voyez tout de suite ce que ça veut dire. Ça veut dire 20 euros pour un gramme de produit utilisé. Et il me reste quand même 1,999 grammes pour finir la formule. Donc, oui, alors les fleurs muettes, c'est celles-là. Et donc, la plupart du temps, on peut les reconstituer ou on peut en faire... on peut reconstituer, faire des approches de ces odeurs-là par la chimie.
Mais les odeurs naturelles donc, des fleurs oui. sont très rares dans la parfumerie.
Bien sûr.
L'absolu, ce mot avec un E final ou sans E final, qui ouvre votre livre et qui met la barre très haut. Parce que l'absolu, c'est la quintessence oui. d'une fleur. Oui, il faut, je ne sais pas combien, je n'ai pas noté, mais des kilos et des kilos de fleurs pour avoir un gramme, peu.
Oui, très peu.
Donc il faut passer par la chimie pour revenir à ça. L'absolu n'existe presque pas.
Alors, il y a des absolus en parfumerie, ils sont plutôt rares, ils sont plutôt onéreux. Et après, il y a la chimie. Mais dans la chimie, il y a des produits très, très, très chers aussi. Puisque quand la chimie est complexe, forcément, la finalité fait un produit très compliqué, enfin, fait un produit cher aussi. Donc, j'ai besoin des deux. J'ai besoin de la chimie comme j'ai besoin du produit naturel. Et il en est de même pour les couleurs.
Et vous avez besoin des mots.
Et j'ai besoin des mots pour m'exprimer.
Pour vous exprimer, pour trouver la signature de ces parfums et l'imagination. On commence à mieux comprendre comment on écrit, on imagine ces odeurs inconnues. Puisque vous êtes un créateur d'inconnus, en fait.
C'est ça. Mais ça rajoute du charme à la vie. Hein.
Bien évidemment. Le parfum, c'est votre vie, Jean-Claude Héléna. C'est aussi le titre d'un roman de Peter Susskind, que vous évoquez d'ailleurs dans votre petit lexique des amateurs et prix d'odeur et de parfum. Et c'est un roman qui a donné lieu à un film, une histoire de polar dans un monde de parfums.
Au XVIIIe siècle, vécut en France, un homme qui compta parmi les personnages les plus doués et les plus tristement célèbres de son époque. Il s'appelait Jean-Baptiste Grenouille. Et si son nom est tombé dans l'oubli aujourd'hui, c'est parce que son unique ambition se bornait à un domaine qui ne laisse point de traces dans l'histoire. Petit à petit, il se rendit compte que son odorat phénoménal était un don qui lui avait été octroyé à lui et à lui seul. Lorsque Jean-Baptiste apprit enfin à parler, il découvrit que la langue courante n'était pas suffisante pour désigner toutes les expériences olfactives qu'il avait collectionnées en lui-même. Il avait assez de parfums pour asservir le monde entier s'il le désirait. Il pouvait se rendre à Versailles et se faire baiser les pieds par le roi. Il pouvait écrire au pape une lettre parfumée et se présenter comme le nouveau messie. Il pouvait faire tout cela et bien plus encore.
Jean-Claude Héléna, y a-t-il du grenouille en vous? Est-ce que l'art du parfum est vraiment un art dangereux?
Ah non, non. Le grenouille, mais enfin, le roman est amusant, mais je ne suis pas un assassin. Loin de
l'ouf.
Loin de là. Et puis, une des vertus du parfum, c'est de rapprocher les humains, de rapprocher les êtres. Et si le parfum peut servir à ça, alors c'est merveilleux.
Vous dites que vous êtes un illusionniste dans ce livre, parce que vous créez des effluves qui sont voués à disparaître, des illusions, que vous êtes aussi un séducteur, et de plus en plus, donc voilà qui est très très rassurant, parce que vous faites des créations. Alors aujourd'hui vous avez quitté Hermès, mais vous travaillez à votre compte pour une série de marques de parfums, comme par exemple le couvent, et vous dites que vous n'êtes plus là pour plaire, mais pour séduire. Racontez-moi cela.
Alors, la notion de plaire et de séduire, c'est-à-dire plaire, c'est répondre à la demande. J'essaie de vous faire plaisir et donc je réponds à la demande. Je ne cherche plus à répondre à la demande, je cherche à vous séduire, c'est-à-dire à vous convaincre, à vous amener ailleurs. Et je crois que c'est le... On retrouve ça chez... À nouveau, je fais un pas de côté. Par exemple, sur les cuisiniers 3 étoiles. Quand vous rentrez chez un 3 étoiles, il ne cherche pas à vous faire plaisir, il cherche à vous séduire. C'est-à-dire qu'il vous, il vous apporte des choses auxquelles vous ne vous attendez pas. Et soit il y a une espèce de révélation qui va se passer, soit vous dites « Ah oui, c'est bien », soit vous n'avez pas aimé. Mais sa démarche, c'est de, quand même, c'est de vous séduire et de vous amener sur son propre chemin. Parce que tout le travail de ma vie a été un long travail de réflexion sur l'odeur et de ce que je pouvais... vous révéler, vous montrer autrement et de vous amener, moi, c'est cela ailleurs qui m'intéresse, et non pas de vous faire plaisir en disant, bah, vous aimez l'éclair au chocolat, je vais vous donner un éclair au chocolat. C'est un peu insuffisant, là, je trouve.
Mais vous faites, et vous avez fait avec la mode, ou vous l'avez créée ? Parce que les parfums sont aussi liés à la mode. Vous racontez, par exemple, que la violette, on oublie la violette en 2021-2022, c'est fini, ça.
Alors, c'est vrai que les parfums sont à la mode, mais j'ai toujours refusé cette notion de mode, parce que pour moi, la mode, c'est... Tout de suite, dès qu'on dit mode, c'est dépassé. Et donc, je préfère offrir des choses nouvelles, des choses qui interrogent. Et ce qui m'a amené à créer des choses nouvelles, c'est que, je veux dire, par exemple, le terre d'Hermès a été largement copié, ou le thé que j'avais fait pour Bulgarie a fait un trend sur le marché qui fait que tout le monde a voulu faire du thé parce que j'avais fait du thé. Et oui, là, ça devient intéressant.
Donc l'ailleurs, l'inconnu.
Voilà, l'ailleurs, inconnu, etc.
Quelle est la fleur, l'odeur qui vous titille en ce moment ?
Là, je travaille...
Qui sera à la mode dans 10 ans, hein, c'est ça ?
je ne sais pas ce qui sera à la mode dans 10 ans, mais il y a des couleurs olfactives qui m'intéressent. Alors, en ce moment, je travaille autour de l'iris, parce que c'est un poudré sec que je trouve intéressant. Et... comment je peux en tirer parti et qu'est-ce que je peux faire autrement de tout ce qui a été fait auparavant ? Parce qu'évidemment, il y a un passé, et ce passé, il faut le connaître pour s'en détacher, à la fois le reconnaître et à la fois s'en détacher. Et c'est comme ça qu'on avance.
Merci beaucoup, Jean-Claude Elena, votre petit lexique des amateurs épris d'odeur et de parfum est coécrit avec Lionel Paillès et il est édité chez Actes Sud. Merci de vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Guillaume Ploquin à la réalisation, émission à réécouter sur RFI.fr et sur les réseaux sociaux.